Bonjour Monseigneur Jean-Marc Mika.
Bonjour Anne-Rose.
Merci d'être au micro de Radio Présence pour donner des nouvelles du diocèse de Tarbes et Lourdes. Alors on va commencer par un retour sur ce qui s'est passé le week-end dernier puisqu'il y avait le CDP, le Conseil diocésain de pastoral. C'était il y a une semaine. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé? De quoi avez-vous parlé?
Le CDP, comme on le sait maintenant, est une instance bien rodée qui a plaisir à se retrouver régulièrement, donc Conseil diocésain pastoral, composé essentiellement de laïcs avec un prêtre et un diacre, représentant des prêtres et représentant des ou délégués par les uns et les autres. Et il y a parmi les membres un délégué de chaque doyenné d'autrefois, des 6 doyennés, et puis des différents mouvements et représentants des mouvements et des services diocésains. Donc on a parlé des statuts qu'il faut adapter à la nouvelle organisation du diocèse et donc augmenter numériquement le conseil diocésain pastoral pour passer de 6 délégués, un par doyenné, à 10 délégués, un par nouvelle paroisse. Bon, alors une fois cette affaire là calée, on est entré dans le vif du sujet. Le conseil diocésain pastoral est doté d'un bureau qui élabore un ordre du jour. C'est eux qui ont totalement l'initiative de l'ordre du jour, sauf si
c'est pas vous qui décidez.
Ce n'est pas moi qui décide, sauf si j'ai l'une ou l'autre question à leur soumettre. C'est arrivé déjà, mais là, c'était pas le cas. Et donc, ils avaient décidé de réfléchir sur la question de l'appel à la sainteté, figurez-vous. Alors, je me suis dit, waouh, bon, très bien, d'où ça vient, où ça va. Et finalement, dans la très belle introduction faite par l'un ou l'autre des membres du bureau, ils se sont référés, entre autres, à la lettre pastorale, mais aussi à l'appel universel à la sainteté, qui est contenu et inscrit en nous dans le sacrement du baptême, comme le rappelle le Concile. Et la question, à la fin de la rencontre, c'était, après avoir réfléchi en atelier, d'essayer d'imaginer concrètement comment dans nos paroisses on pouvait relayer et vivre concrètement, mettre en œuvre cet appel à la sainteté. Alors par quoi ça passe? Eh bien ça passe par, et ça fait écho pour moi à ce que j'ai écrit dans la lettre pastorale, toujours repartir du Christ, bien c'est bien ça qui était derrière en toile de fond des échanges et de leur ambition, je dirais, en choisissant ce thème-là. Et donc, pourquoi, d'où vient cet appel à la sainteté? Pourquoi la sainteté? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la sainteté? Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, chrétiens, dans nos communautés, dans nos paroisses? Et comment soutenir les uns et les autres dans cette ambition que nous devons avoir d'être parfaits comme notre Père du ciel est parfait, comme nous y invite l'Écriture.
Alors, est-ce que vous avez trouvé des réponses?
C'était superbe que l'initiative vienne d'eux et de la façon très pratique, à la fois très simple et très ambitieuse. Enfin, c'était profondément chrétien, je dirais. C'était très beau et de très beaux échanges. Alors, moi, je prends des idées au passage. J'entends les échanges, j'entends les suggestions, les propositions, les formulations, et ça me donne des idées pour le futur, soit une lettre, soit un thème pour un prochain rassemblement diocésain, l'idée a été formulée, et des choses comme ça. Et voilà. Et donc c'est vraiment de très beaux moments, et je leur dis à chaque fois que, alors que quand je reçois l'ordre du jour, je suis parfois un peu perplexe sur ce que ça va donner.
Vous êtes toujours content après.
Redoutant par-dessus tout le genre conversation de salon où on échange des idées un peu comme ça, mais ça va pas très loin. C'est pas du tout ça, c'est vraiment profondément un échange de foi et hyper concret. Et donc, ça permet à ce conseil de jouer pleinement son rôle, tel qu'en tout cas je l'ai souhaité en le créant il y a 3 ans maintenant, et j'en suis très 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 heureux.
Ce qui est intéressant, c'est d'observer cette réorganisation du diocèse et des 10 paroisses en se disant que, sans occulter les questions pratico-logistiques, administratives, etc., qui sont nécessaires.
Mais c'est pas d'abord
sûr,
ça la préoccupation,
mais
tant mieux.
Là, on sent qu'il y a,
c'est pas un conseil d'organisation de ceci, de cela, de gestion de difficultés, de problèmes, de défis, mais vraiment une réflexion plus lointaine, plus détachée de la gestion immédiate. Et on a besoin de ça, de ce pas de côté que permettent ces matinées avec le CDP. Et vraiment, vraiment, c'est formidable. Et avec des gens formidables. Et donc, vraiment, c'est vraiment très bien.
Alors une autre nouvelle formidable, c'est l'actualité pour ce week-end dans notre diocèse de Tarbes et Lourdes, puisque notre séminariste Elias sera institué ce dimanche comme lecteur et acolyte.
Voilà, Elias, donc ancien capucin qui était à Lourdes, libanais d'origine, sa famille est au Liban, et qui a souhaité réorienter sa vie et se proposer comme prêtre diocésain pour nous. Alors évidemment, c'est quand même un défi parce que il n'est pas bigourdant, parce que sa vocation première n'était pas d'être prêtre diocésain, en tout cas en France. Donc on a pris le temps d'examiner les choses. Cette année, il est une semaine par mois au séminaire à Toulouse, tout en étant en paroisse à Tarbes, sur le secteur de Saint-Antoine, et voilà, il est avec une équipe d'accompagnement qui lui pose les bonnes questions, et puis donc
l'équipe d'accompagnement d'un séministe, elle est composée de qui choisit?
Alors elle est composée d'un des prêtres de la paroisse, quand il y en a plusieurs, qui est le prêtre référent, et puis des personnes qui sont moitié-moitié proposées et par le séminariste s'il connaît des gens, mm-hmm. ou en tout cas par les gens du lieu où il est en insertion, donc là en l'occurrence Saint-Antoine, et puis d'autres moitiés proposées par le reste de la paroisse, donc là le curé et puis d'autres, et avec la vigilance de celui qui est délégué à la formation des futurs prêtres, des séminaristes.
D'accord.
Qu'on appelle le délégué diocésain à la formation au ministère, et qui est l'abbé Jean-Florent Nutens. Et donc voilà, en commun accord, le conseil épiscopal, Jean-Florent Nutens, le curé de Tarbes et le père Louis sur place à Saint-Antoine, eh bien, une équipe s'est constituée et se réunit régulièrement avec Elias pour cheminer ensemble, non seulement jusqu'à l'étape qui est là, c'est-à-dire la première commande passée à cette équipe, c'était de pouvoir me dire si oui ou non on pouvait envisager d'accueillir la proposition d'Elias et
de
l'imaginer prêtre bigourdan. Ouais. Voilà. Donc cette question, voilà, on est arrivé au moment où on décide de penser que le pari est jouable et raisonnable. Et donc l'équipe disait, bon ben donc mission accomplie, dit, non, vous continuez à l'accompagner jusqu'au diaconat, puis jusqu'au presbytérat, si le chemin va jusque là.
Ah oui, donc c'est un accompagnement, voilà.
Et donc tout le monde est heureux, et lui et eux, de cet accompagnement qui s'inscrit dans une perspective au long cours, et c'est très très heureux aussi que les choses se passent comme ça.
Mais c'est comme ça pour tous les séminaristes, ou là c'est parti?
C'est comme ça pour les séminaristes quand ils arrivent en fin de formation,
ouais.
où les gens du diocèse se mettent en chemin à travers une équipe d'accompagnement pour que le jour de l'ordination, vous savez, la formule rituelle, oui. du dialogue premier avec l'évêque, Monseigneur, l'Église, notre mère vous présente son fils, un tel, pour qu'il soit ordonné diacre ou prêtre. Et la réponse rituelle de l'évêque, c'est: savez-vous s'il a des aptitudes requises? Et la réponse rituelle, c'est: le peuple chrétien a été consulté, ceux à qui il appartient d'en juger ont donné leur avis, aussi j'atteste qu'en effet il est digne d'être ordonné. Bon, alors ceux à qui il appartient d'en juger, c'est les formateurs du séminaire qui formulent un avis transmis à l'évêque, mais le peuple chrétien consulté, c'est l'ensemble de l'Église, de la communauté chrétienne, et il ne faut pas que ça soit une formule vide de sens. Et donc pour incarner la réalité de ce qu'il y a exprimé dans cette... L'Église a son mot à dire sur l'appel au ministère d'un des siens. Et donc c'est ça qui se joue dans
le peuple de Dieu a son mot à dire.
Dans cet accompagnement, et ils jouent bien leur rôle, et voilà, sur la base des témoignages reçus, de celui du séminaire de Toulouse et du cheminement fait avec Elias lui-même, eh bien on décide donc j'ai décidé de l'appeler à recevoir les ministères institués du lectorat et de l'acolytat, et ce sera dimanche
au cours de la
messe paroissiale à l'église Saint-Antoine de la paroisse de Tarbes.
Qu'est-ce que ça change d'être lecteur et acolyte? Ça veut dire quoi concrètement dans la liturgie?
Alors c'est très intéressant parce que ce sont des ministères, donc ministères institués. Il y a des ministères institués, des ministères ordonnés, et des ministères confiés. Les ministères confiés, c'est ponctuellement, on demande à quelqu'un de faire une lecture, et bien il reçoit le ministère de lecteur pour le temps où ça lui est confié. Mmh. Ce jour-là, il est ministre confié de la lecture, de la parole de Dieu. Ministère institué, c'est un ministère que l'on reçoit à vie, c'est-à-dire c'est la même chose, mais ça comment dire ça institue durablement à vie quelqu'un, un laïc, un fidèle, dans un service ministériel, et en l'occurrence le service de la parole de Dieu, de son annonce, de sa méditation, de sa proclamation, de son partage. Et donc le pape François a souhaité que l'Église développe vraiment une proposition de ces ministères beaucoup plus large que jusqu'à présent. Alors jusqu'à présent, en effet, c'était plutôt réservé aux futurs diacres et prêtres. Et désormais, on est invité vraiment à réfléchir, à élargir complètement cette proposition des ministères institués à tout fidèle qui va rester lecteur ou rester acolyte, qu'il soit homme ou qu'il soit femme. Et alors ça nous permet de jeter un regard différent sur ces ministères qui sont pas simplement une étape par laquelle il faut passer et transitoire entre le baptême et puis l'ordination, mais réellement comme une réalité qui a un contenu. Et donc le ministère de la parole, c'est tout ce qui contribue au service de la parole de Dieu, de sa communication, et le ministère de l'acolyta, c'est celui du service de la prière communautaire. Alors, quand on dit acolyte, on pense aux enfants de cœur qui manient les burettes près de l'autel, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est vraiment le service de la prière communautaire et le service du lectorat. C'est pas simplement aller faire la lecture le dimanche, mais c'est le service de la parole de Dieu.
De l'annonce de la bonne nouvelle.
Et donc, quelqu'un qui est catéchiste en paroisse pourrait très très bien être ministre institué de la parole, par exemple. Et quelqu'un qui anime un groupe de prière de manière régulière dans une paroisse pourrait très bien être institué acolyte.
Pourrait être institué acolyte. En tous les cas, s'agissant d'Elias,
alors,
notre séminariste,
le droit de l'Église dit que de toute façon, les futurs diacres et prêtres doivent être préalablement institués lecteurs et acolytes. Oui. Donc c'est ça qui va se passer pour Elias, puisque le projet, c'est de l'ordonner diacre dans les mois qui suivront, si tout continue de bien se passer.
Donc ça veut dire que prochainement, le diocèse de Tarbes-Lourdes pourrait avoir de jeunes prêtres, puisque vous nous avez annoncé il y a quelque temps l'ordination diaconale de Corentin.
Alors déjà, on aura un diacre le 6 septembre avec Corentin Laguens. J'espère un autre diacre un peu plus tard avec Elias, et puis si Dieu le veut, deux prêtres un peu plus tard.
Bon, ça fait plaisir. Voilà. Des nouvelles qui donnent de la joie dans le cœur. Monseigneur, je voudrais vous parler d'un autre sujet. Le week-end dernier, des paroissiens nous ont apporté une nouvelle qui, voilà, ils ont observé, remarqué une croix qui a été taguée du côté de Mauvezin, une croix taguée. Alors ça n'arrive pas tous les jours, mais ça arrive parfois. Alors c'est le genre de choses qui peut passer inaperçu, hein, des insultes taguées sur une croix, ça peut passer inaperçu, mais il n'empêche que pour les paroissiens, les fidèles qui le voient, c'est quand même toujours une attaque à leur foi, ça les heurte, ça les blesse. Qu'est-ce qu'on peut en dire ?
D'abord de la tristesse que des gens imaginent qu'en faisant ça, ils sont plus malins que les autres, ou n'imaginent rien du tout d'ailleurs, que c'est un geste, une insulte à la fois, parce que quand même les tags sont vraiment dirigés contre le Christ qui est sur la croix, ou contre l'Église que la croix symbolise, donc c'est pas complètement neutre, et bon. Donc une grande tristesse que des gens aient des sentiments comme ça dans le cœur, et puis le manifeste avec une vraie lâcheté quand même, parce que évidemment c'est pas au grand jour, c'est pas devant les autres, on sait pas qui c'est, enfin bon, ben voilà, c'est comme ça. Une grande tristesse qu'on en soit là, mais cette tristesse pour moi, elle est aussi un appel. Vraiment, quand je dis et répète que nous devons être missionnaires, c'est que la seule manière de faire reculer ça, dans un premier temps, c'est un peu la peur du gendarme, parce qu'une plainte a été déposée, donc une enquête est ouverte.
Oui, ça c'est la procédure.
Et si on arrive à trouver
normale.
Les auteurs, eh bien, il faut qu'ils soient punis, quoi, en conséquence, en rapport à l'acte posé, et qui est un acte d'agression, de détérioration, d'agression d'une communauté, de la foi des autres, et ça c'est interdit par la loi. Bon, très bien. Mais au-delà de ça, ben, il faut éduquer, proposer la foi, proposer des valeurs de respect, proposer tout ce qui fait défaut aujourd'hui et qui alimente la violence sous toutes ses formes. Et voilà. Donc c'est à la fois une immense tristesse et une grande compassion pour les personnes qui se sentent à juste titre agressées par des actes bêtes et méchants, ou plus bêtes que méchants, ou plus méchants que bêtes. Je pense qu'il y a tous les cas de figure. Mais aussi et surtout un appel pour nous à proposer la foi et à incarner les valeurs qu'elle propose et qu'elle contient dans nos propres manières d'être en relation avec les autres pour forcer le respect et être respecté le plus possible. Ouais, voilà.
Ce qui est un peu étonnant, c'est qu'en fait, face à ce genre d'actes, finalement, on a l'impression que, au fond, ça rend l'évangile encore plus crédible.
Oh oui, sans doute, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, ce que je constate, c'est que plus la foi recule, plus l'homme se déshumanise. Mmh. Et ça, typiquement, ça comme beaucoup d'autres choses, c'est tout simplement pas humain, parce que l'humain est fait de respect, de compassion, de charité, d'écoute, de partage, etc. Toutes ces valeurs qui ne sont pas contenues dans des actes comme cela.
Merci beaucoup Monseigneur. Ce week-end, alors il y a beaucoup de choses qui se passent ce week-end, mais nous avons rendez-vous ce 25 avril, hein, on l'a beaucoup dit,
nous y sommes,
ce 25 avril, rendez-vous d'abord à Argelès-Gazost à 15h pour prier sur la tombe du bienheureux Pascal Vergès, prière pour les vocations, voilà, on vient de parler d'Elias, mais on va pas s'arrêter à Elias, n'est-ce pas? Et puis ensuite, 16h30, conférence de Monseigneur Perrier à Aucun, dans la salle des fêtes d'Aucun, et ensuite la messe en l'église d'Aucun, est-ce que vous présiderez avec sans doute beaucoup de prêtres du diocèse pour honorer, faire mémoire.
En faisant le point tout à l'heure avec mon assistante, au moins 26 ou 27 prêtres sont déjà inscrits pour le repas qui précédera le rendez-vous au presbytère.
Pour les prêtres.
Qui précédera le rendez-vous au cimetière d'Argelès. Et donc c'est de bon augure parce que si eux-mêmes se sont inscrits, ça veut dire qu'ils ont aussi communiqué l'invitation à leurs paroissiens ou à d'autres, et donc voilà, c'est tout ça est très très heureux, et je suis très heureux de ce rendez-vous samedi à Argelès et puis à Aucun, et je remercie aussi la mairie d'Aucun qui a prévu de mettre les petits plats dans les grands pour accueillir cet événement quand même dans leur village, puisque après la messe nous sommes attendus à la mairie pour un temps de rencontre sympathique également.
Voilà, et Radio Présence sera de la partie, évidemment, toujours dans les bons
rendez-vous.
Fidèle, merci. Merci, Monseigneur, à la semaine prochaine.
Très bonne semaine à tous.